Ouah, Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 13 septembre 2016. Au sommaire ce soir...
Procès Bosco Ntaganda à la CPI. L'ancien chef de guerre congolais poursuit sa grève de la faim.
RDC, le médiateur du dialogue national, tente de ramener les partis autour de la table.
Tension politique au Zimbabwe, la police interdit de nouvelles manifestations contre le président Robert Mugabe, restrictions que l'opposition promet de défier.
En Syrie, la trêve annoncée par la Russie et les États-Unis semble globalement respectée.
Nous parlerons politique américaine avec Timothée Donangmaï.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
L'ex-rebelle congolais Bosco Ntaganda en grève de la faim depuis la semaine dernière pour protester contre ses conditions de détention à la Cour pénale internationale a dit au juge ce mardi qu'il était prêt à mourir. Nathalie Barche.
Je n'ai pas la possibilité de voir mon épouse et mes enfants dans des conditions normales. C'est la raison pour laquelle j'ai perdu tout espoir. Voilà pourquoi je suis prêt à mourir, a déclaré Bosco Ntaganda dans une déclaration lue par son avocat. L'ex-rebelle congolais a également demandé à maître Stéphane Bourgeon de ne plus le représenter et de cesser toutes les actions en justice en son nom. Il a cessé de s'alimenter la semaine dernière pour protester contre les restrictions à ses appels téléphoniques et les droits de visite mis en place depuis 2014, après que les juges aient conclu qu'il essayait d'interférer avec les témoins. Ntaganda a participé aux audiences ce mardi via un lien web vidéo dans le centre de détention de la CPI après la conclusion d'un rapport médical ce matin concluant que son état de santé ne lui permettait pas d'être déplacé. Il fait face à 18 chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité concernant des attaques meurtrières à caractère ethnique en 2002 et 2003 dans l'Ituri en République démocratique du Congo.
Dialogue politique en République démocratique du Congo. Le facilitateur lance un appel à la reprise des travaux. Edem Kodjo a rencontré toutes les parties pour tenter de relancer les discussions après la décision lundi de l'opposition de suspendre sa participation aux travaux. L'ancien Premier ministre togolais qu'entourait les deux co-médiateurs, Alexis Tambwe pour la mouvance et Vital Kamerhe pour l'opposition, se dit tout de même confiant quant à la possibilité d'un compromis.
Nous avons aussitôt pris les dispositions nécessaires pour rentrer en discussion avec toutes les parties pour essayer de trouver une solution parce que nous ne devons pas oublier une seule seconde que c'est tout le peuple congolais qui nous regarde et que dans une certaine mesure, nous n'avons même pas le droit à l'erreur, encore moins à l'échec. Donc aujourd'hui, je lance un appel solennel à tous les participants au dialogue pour que le chemin du compromis soit le chemin que nous décidons de parcourir ensemble. Il n'y a pas de problème sans solution. Ce qui oppose les uns et les autres sur le thème de la séquence des élections n'est pas un problème qui dépasse la capacité d'imagination des diplomates et des politiques que nous sommes.
Edem Kodjo, micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Lutte contre le djihadisme au Sahel. Les islamistes armés n'ont plus la capacité tactique de prendre une ville et de la contrôler. C'est du moins ce qu'estime le nouveau commandant des forces françaises Barkhane, le général François Xavier de Walmont, qui s'est ainsi exprimé à Ouagadougou. Contrairement à l'impression qu'on peut avoir, les armées des pays du G5, qui regroupent le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso, et Barkhane remportent des succès importants, a-t-il déclaré à l'issue d'un entretien avec le chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kabore.
Investiture en Zambie, le président Edgar Lungu entame son mandat de 5 ans. Son rival Hakainde Hichilema rejette toujours sa victoire en l'accusant de fraude.
Le gouvernement et l'opposition sont engagés dans un nouveau bras de fer au Zimbabwe avec l'interdiction par la police de nouvelles manifestations prévues contre le président Mugabe. Détail avec Tatiana Mosso.
Le directeur général de la police a interdit tout rassemblement dans les rues d'Harare pour une période d'un mois à compter de vendredi. Même s'il ne précise pas, cet ordre vise explicitement la nouvelle vague de manifestations de masse annoncée quelques heures plus tôt dans tout le pays pour samedi par une coalition de partis d'opposition emmenée par le Mouvement pour le Changement Démocratique, MDC. Depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe est agité par une fronde populaire contre le régime du président Mugabe, 92 ans, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1980. Le chef de l'État a ordonné la répression de ces manifestations et prévenu qu'il continuerait sur cette voie. Les mouvements hostiles au régime ont assuré qu'ils passeraient outre et porteraient l'affaire devant la justice. La semaine dernière, les magistrats de la Haute Cour du Zimbabwe avaient ouvertement défié le gouvernement en levant une précédente mesure de la police prohibant tout rassemblement de masse dans les rues de la capitale. L'opposition réclame notamment des réformes électorales, alors que des élections générales sont prévues en 2018. Le président Mugabe compte se représenter.
En Afrique du Sud, les autorités ont interdit l'entrée sur leur territoire à Steven Anderson, un prédicateur chrétien américain dont les propos homophobes ont suscité une levée de boucliers. Claire Morin-Gébourg.
Toute la communauté gay sud-africaine s'est mobilisée contre la venue de Steven Anderson de la Faithful World Baptist Church, qui était attendue ce week-end dans la nation arc-en-ciel, où il comptait, je le cite, « conquérir des âmes ». L'annonce de sa visite avait suscité un tollé et une pétition en ligne contre sa venue avait recueilli plus de 600 000 signatures. Réactions qui ont poussé le gouvernement à intervenir, le ministre de l'Intérieur, Malusi Gigaba, a annoncé que Steven Anderson, ainsi que les membres ou les proches de son église, sont interdits d'entrer sur le territoire sud-africain, ceci afin d'éviter tout préjudice et toute manifestation de haine, quelle que soit sa forme, contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels, autrement dit les LGBT, c'est ce qu'a précisé le ministre. L'Afrique du Sud, qui a légalisé le mariage gay en 2006, est un des pays les plus progressistes en matière de droits des LGBT. Steven Anderson doit se rendre prochainement au Botswana voisin, où l'homosexualité reste un crime.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Nations Unies n'ont pas distribué d'aide humanitaire aux civils syriens au premier jour d'un fragile cessez-le-feu en raison de préoccupations de sécurité, ont annoncé des responsables de l'ONU. L'armée russe affirme que les forces du président Assad respectaient le cessez-le-feu depuis hier soir, mais elle a accusé les rebelles d'avoir violé à 23 reprises la trêve négociée par Moscou et Washington. Bagassi Koura.
Pour le général Viktor Poznikir de l'état-major russe, les forces gouvernementales syriennes ont complètement cessé le feu, à l'exception des zones où opèrent des militants du groupe État islamique et du front al-Nosra. Il regrette cependant ne pouvoir dire la même chose sur les régiments armés de l'opposition modérée. L'officier supérieur russe accuse les rebelles syriens d'avoir tiré à 23 reprises sur des quartiers résidentiels et des positions des forces gouvernementales depuis l'entrée en vigueur de la trêve. Un cessez-le-feu entre rebelles syriens et l'armée de Damas a débuté lundi dernier à 19h heure locale en vertu d'un accord entre Russes et Américains, soutien respectif du régime et de la rébellion. L'arrêt des combats doit permettre l'envoi d'aide humanitaire d'urgence aux centaines de milliers de personnes qui vivent dans les zones assiégées, notamment la partie d'Alep.
Et toujours concernant la Syrie, la tension entre la Turquie et les miliciens kurdes syriens est liée au sort de la ville syrienne de Manbij. Ankara exige le retrait des Kurdes et l'entrée de l'armée syrienne libre à Manbij, ce que l'autre force a jusqu'ici rejeté. Les soldats turcs sont entrés en Syrie le mois dernier en appui aux éléments de l'armée syrienne libre. L'incursion turque vise à la fois les djihadistes du groupe État islamique et les rebelles kurdes accusés par Ankara de terrorisme et de lien avec le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qui est interdit.
L'ex-président israélien et prix Nobel de la paix Shimon Peres, âgé de 93 ans, a été hospitalisé ce soir près de Tel Aviv à la suite d'un accident vasculaire cérébral, indique son bureau dans un communiqué. M. Peres avait connu en janvier deux alertes cardiaques en 10 jours et avait été hospitalisé à deux reprises.
Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a refusé d'échanger des corps de 2 soldats israéliens contre une 20aine de corps de Palestiniens et autant de prisonniers, indiqué aujourd'hui aux responsables israéliens. Israël a procédé par le passé avec des organisations ennemies à des échanges de prisonniers ou de corps pour amener des Israéliens au pays. Israël et le Hamas se sont livrés 3 guerres entre 2008 et 2014, rappelle l'AFP. Ils observent depuis un cessez-le-feu précaire.
Taïwan a demandé à ses alliés diplomatiques d'envoyer au secrétaire général de l'ONU une lettre demandant la participation du pays à 3 organismes onusiens. Une demande inhabituellement agressive qui répond à la pression intérieure, mais qui sera assurément rejetée par la Chine. Les organismes visés sont l'OMS, l'Organisation internationale de l'aviation civile et la Convention sur le changement climatique. La Chine, qui considère toujours Taïwan comme faisant partie de son territoire, a le droit de veto au Conseil de sécurité.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Voilà donc pour le journal. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Le régulateur ouest-africain des marchés financiers a donné son feu vert au Burkinabé Coris Bank International pour son introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon le magazine Jeune Afrique, l'opération porte sur 1,25 million d'actions dont le prix d'émission n'a toujours pas été communiqué. Tunisair, la compagnie aérienne tunisienne, lancera 2 nouvelles lignes cette année. La première reliera N'Djamena au Tchad à Douala au Cameroun, alors que la seconde reliera Tunis à Conakry via Dakar. Tunisair a récemment ouvert une ligne directe vers le Niger et a porté à 5 le nombre de rotations hebdomadaires en Côte d'Ivoire. Des bus électriques 100% énergie propre circulent désormais dans les rues de Brazzaville. Après des tests au mois de mai 2016, la mairie de la capitale congolaise a finalement donné son accord mi-août pour un lancement officiel hier. Ces bus électriques sont développés par Blue Congo, une co-entreprise du groupe Bolloré et du Fonds souverain de l'État du Qatar.
Place au sport avec Tatiana Mosso. Salut Tatiana.
Salut Gabi.
Jeux Olympiques 2016, des hackers russes piratent le site de l'Agence mondiale antidopage.
Et oui, et ils ont été jusqu'à publier des renseignements confidentiels sur des athlètes américains présents aux Jeux de Rio. L'agence a réagi après la publication de données confidentielles de 4 athlètes américains, dont une championne olympique par le groupe russe d'espionnage cybernétique Tsar Team, également connu sous le nom de Fancy Bear. Il s'agit de la 2e attaque de ce groupe depuis début août contre le système de gestion et de localisation de l'agence qui lui permet d'assurer le suivi des contrôles antidopage des sportifs. Le comité international olympique a aussi condamné cette cyberattaque clairement destinée à souiller la réputation d'athlètes propres.
Et parlant des Olympiades, Tatiana, Rome renoncera à être candidate pour les Jeux de 2024 si d'ici le 7 octobre, quoi ?
Si d'ici le 7 octobre, la nouvelle maire Virginia Raggi ne soutient pas ce projet. Rome est l'une des 4 villes candidate à l'organisation des Jeux en 2024 avec Paris, Budapest et Los Angeles. Le 7 octobre, donc, vous le disiez, Gabi, les candidats doivent envoyer au Comité olympique international la 2e partie de leur dossier. Argument invoqué par Rome, la ville est déjà endettée à hauteur de 13 milliards d'euros et la priorité est de régler les problèmes des Romains, dont la mobilité et non d'organiser des JO.
Football, c'est avec l'esprit libre que Claude Leroy pourra disputer la CAN 2017 au Gabon à la tête de l'équipe togolaise.
Effectivement, le sélectionneur des Togolais a été condamné à 15 000 euros d'amende pour complicité de faux et usage de faux dans l'affaire des transferts frauduleux au Racing de Strasbourg, où il était manager de 1998 à 2000. Le Français a été en revanche innocenté de l'accusation de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent de joueur.
Match amical Togo-Ouganda à Lomé le 4 octobre.
Oui, le Togo et l'Ouganda sont tous les deux qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui doit se dérouler au Gabon. En novembre 2015, l'Ouganda avait éliminé le Togo de la course au Mondial 2018 au 2e tour des qualifications. L'Ouganda commence le 7 octobre à Accra, au Ghana, son parcours dans le groupe E du 3e et dernier tour des qualifications pour le Mondial en Russie.
Et les Africains en lice en Ligue des Champions UEFA 2016-2017 et l'affiche des matchs de demain.
La phase de groupe de la Ligue des Champions débute ce mardi et ils seront une centaine centaine de joueurs à évoluer et dès mercredi, il y aura la Juventus de Turin contre le FC Séville de Cristiano Ronaldo, qui affrontera le Real Madrid et le Sporting Portugal.
Je sais que vous aimez son nom et que vous l'aimez aussi peut-être.
Non, je suis pas fan.
On est tous fans de Cristiano Ronaldo. Merci Tatiana.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guiriec et Gaby Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour.
Les poids lourds de l'opposition congolaise ont suspendu leur participation au dialogue national initié par le président Joseph Kabila. Hier, Vital Kamerhe de l'UNC l'a qualifié de voix sans issue. Ce forum politique sur la crise préélectorale s'est ouvert le 1er septembre à Kinshasa, sous l'égide de l'Union africaine. Nathalie Barge a joint à Goma, dans l'est de la RDC, le politologue Fidèle Bafilemba.
Il vous souviendra la publication d'un ouvrage par un classique du pouvoir, donc le ministre de l'Intérieur, M. Evariste Bouchab, qui avait publié à son temps « Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation ». Donc là, il montrait déjà clairement que le peuple avait à choisir entre accepter la révision constitutionnelle permettant le prolongement du pouvoir en place ou refuser cette révision et comme ça aller tout droit vers l'inanition. Ça, c'était déjà des signes qui ne trompent pas. Mais aussi, tout de suite, on est passé au découpage sans aucune prévision des 11 provinces à 26 provinces. Et aussi, on a fait des tentatives même de modifier la loi électorale déjà depuis 2015, ça paraît ici. Et aujourd'hui, on voit bien l'étirement auquel s'est accordé à l'élection la commission électorale, s'accordant avec le pouvoir que nous, voilà, il faut aller jusqu'à 16 mois plus un jour. Donc, on voit bien que nous, en tout cas, la machine était déjà en marche pour le glissement. Et je pense qu'aujourd'hui, ces retraits et cette opposition qui avait accepté ces dialogues, ça ne fait que prouver à la face du monde qu'il y avait déjà cette stratégie en place.
Comment va évoluer ce bras de fer entre l'opposition et le pouvoir en ce qui concerne les élections, à savoir l'ordre des élections locales et présidentielles ?
Ce bras de fer, c'est une création, c'est quelque chose qu'on a fomenté, autant pour les dialogues. Ces dialogues n'avaient pas son sens et sa raison d'être. Et donc, tout ce qui suit aujourd'hui, ça n'a pas les raisons d'être. Donc, si le gouvernement n'a pas été capable d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, il devrait, en toute responsabilité, les reconnaître et s'assumer par rapport à ça.
Mais est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des poids lourds, hein, notamment de l'opposition, de se retirer du dialogue national ? Autrement dit, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de se retirer du dialogue ?
De toutes les façons, tout ce que ces gens auraient à gagner en s'accordant à ces dialogues, ce serait des postes. Puisqu'il n'y a eu jamais de dialogue au Congo ou pour le Congo qui ne soit pas en tout cas un marché de dupes. Un marché dans lequel le bénéficiaire ont toujours été ceux qui gagnent des postes au gouvernement et la majorité de la population congolaise est restée à la traîne. Alors, se retirer de ces dialogues, c'est vrai, ils vont perdre puisqu'ils ne vont plus gagner ces postes-là. Mais déjà, vous voyez qu'il y a des fissures même parmi cette opposition-là. Qu'il y en a qui ne reconnaissent pas ceux-là qui ont été mandatés ou choisis par eux-mêmes pour être co-modérateurs, dont je vais parler de Vital Kamerhe, et les autres qui disent non, en tout cas, malgré qu'il y a eu ces retraits-là, nous, on continue. C'est le cas, par exemple, de l'ex-secrétaire général de l'UDPS, M. Bruno Mavungu, qui, quand même, il est resté dans le processus.
Fidèle Bafilemba est un chercheur indépendant à Goma, dans le Nord Kivu, en RDC.
Dans Washington Forum, ce jeudi, on se penche sur l'accès à Internet en période électorale. De la campagne américaine qui inonde les réseaux sociaux aux coupures de ces derniers à l'annonce des résultats d'un scrutin, qu'il soit tchadien, congolais ou gabonais. Deux poids, deux mesures, nous explorerons les limites de la toile, les excès ou les suspensions. Que disent les législations africaines, américaines ou encore européennes ? Qui a le droit ou non de couper l'accès au réseau ? La démocratie passe-t-elle par le web ? On attend vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h, temps universel.
Les veuves et enfants de soldats camerounais morts dans la lutte contre Boko Haram affirment être négligés par leur gouvernement. Plus de 200 soldats sont morts dans la guerre, laissant des centaines de veuves et orphelins dans une situation financière pour le moins précaire. Le gouvernement camerounais a souvent pourvu à leurs besoins, mais il souhaite davantage. Par exemple, certains voudraient apprendre à pêcher. Reportage Moki Edwin Kinzeka.
La fanfare militaire annonce une grande cérémonie de remise de dons aux veuves et orphelins. Parmi ceux qui ont reçu les dons de matériel didactique, Sylvie Ongene, âgée de 18 ans, orpheline, en est une.
Il y a un sentiment de non-rejet, de non-abandon. Parce que vous savez, après que papa soit tombé au front, ça fait très mal. Donc, quand la grande famille du corps militaire nous aide ainsi, donc c'est une grande joie, c'est beaucoup d'émotion. Et en plus, maman n'étant pas salariée, donc c'est une mélangée, donc ça pourra aider pour la prochaine année académique.
Derrière cette proclamation de satisfaction se cache la colère de veuves et orphelins. Marie-Noël Bitima, qui a perdu son fils il y a 2 ans et qui doit prendre soin de ses orphelins, demande le soutien du gouvernement.
Non, je m'occupe des enfants comme ça. Moi, je ne sais même pas ce que je peux vous répondre. Parce que ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Un enfant de 26 ans qui part à Marouapou ne peut jamais rentrer. Il a laissé un garçon et une fille. C'est très bon. Mais est-ce que je verrai alors encore un jour mon enfant? Je ne le reverrai plus jamais. Plus jamais.
Le Cameroun par son ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, a toujours rassuré les proches des défunts du soutien du gouvernement.
À ceux de nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main, pour la défense de notre patrie. Au nom du chef de l'État, je voudrais dire à leurs âmes, à leurs familles, ainsi qu'à leurs proches, que leur sacrifice ne sera jamais vain.
Pour ces veuves et orphelins, l'attente est très longue. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les épidémies de fièvre jaune en Angola et en République démocratique du Congo sont sous contrôle, a affirmé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. Les premiers cas de fièvre jaune ont été détectés en décembre 2015 en Angola. L'épidémie s'est ensuite propagée en RDC et quelques cas importés ont également été notifiés en Chine et au Kenya, faisant craindre à l'OMS une épidémie majeure. Pour en parler, John Lyndon s'est entretenu avec Tariq Yazarevitch du bureau de l'OMS pour la préparation et la réponse des pays aux épidémies à Genève en Suisse.
Comme vous le savez, et on l'a déjà dit plusieurs fois, on a entrepris une deuxième campagne de vaccination dans les deux pays qui ont connu l'épidémie de la fièvre jaune, donc en République démocratique du Congo et Angola, où on a réussi à vacciner près de 12 millions de personnes, notamment à Kinshasa, où on a réussi en moins de 2 semaines de vacciner 7,7 millions de personnes dans la capitale de RDC. Et aussi, on a mené cette campagne de vaccination dans la zone frontalière entre les deux pays dans le but de vacciner et immuniser le plus grand nombre possible de personnes avant l'arrivée des saisons de pluie. Cela s'ajoute à des campagnes de vaccination qui ont été déjà faites depuis le début de l'épidémie en Angola. En Angola, on a réussi à vacciner au total, y compris donc avec cette dernière campagne, plus de 15 millions de personnes, ce qui nous a amené à une situation où on n'a pas eu de nouveaux cas confirmés de fièvre jaune en Angola depuis le mois de juin. Et on estime que c'est un succès qui a été fait par tout d'abord les autorités sanitaires d'Angola, avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on ait d'autres cas, d'autres foyers dans d'autres pays? On sait qu'il y a eu l'Angola et la RDC.
Oui, tout à fait. Il y a un risque qui est réel et qui augmente, en fait. Donc, cette dernière épidémie de fièvre jaune est la première, en fait, qui s'est déclarée dans les grandes villes, comme Luanda ou bien Kinshasa. Ça nous dit que, en fait, avec l'urbanisation, avec une plus grande mobilité, avec aussi les changements climatiques, on peut s'attendre dans l'avenir d'avoir plus des cas de fièvre jaune dans tous les endroits où le vecteur, donc le moustique, habite. On sait que fièvre jaune est endémique dans plus de 40 pays, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, il faut se préparer à ce qu'il y ait dans l'avenir plus de cas et il faut préparer donc une réponse qui comprendrait notamment la vaccination des populations dans les zones à risque, aussi l'introduction de la vaccination contre la fièvre jaune pour les enfants dans les pays où la maladie est endémique, mais aussi préparer les grandes villes à cette possibilité d'avoir des cas de fièvre jaune. C'est pour cela que l'OMS a organisé une réunion hier avec Partner, effectivement pour voir comment s'attaquer à ce problème de fièvre jaune dans l'avenir.
Tarek Yazarevitch, joint à Genève en Suisse.
Présidentielle américaine 2016, à moins de 2 mois du scrutin, la candidate démocrate Hillary Clinton continue de se maintenir en tête dans les sondages au niveau national. Toutefois, les perspectives semblent s'améliorer pour son adversaire républicain Donald Trump, d'autant plus que de nombreux Américains n'ont pas encore décidé pour qui ils voteront. Le point avec Timothée Donangmaï.
Il y a juste 2 semaines, la campagne électorale de Donald Trump semblait en difficulté. Mais le candidat républicain semble avoir repris du poil de la bête, glanant quelques précieux points dans les états clés. Tim Malloy est un expert en sondage à l'Université Quinnipiac.
When you look at Florida, North Carolina, Pennsylvania, Ohio, all so close, these are the ones these candidates need to win.
Voyez la Floride, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et l'Ohio, avec des chiffres si proches, ce sont les états que ces candidats doivent remporter. Qui sait qui pourrait remporter la course si elle avait lieu aujourd'hui? Les électeurs doivent réaliser que la compétition est très serrée, avec des candidats polarisants, et tout peut changer de jour en jour, a ajouté l'expert Tim Malloy. Trump peut compter sur une base électorale loyale, tout comme Clinton, mais de nombreux Américains sont indécis. Les débats entre candidats pourraient aider ces électeurs à se situer, en particulier le premier face-à-face qui est prévu le 26 septembre. Les réponses à certaines questions serviront d'indice, estime l'expert Tim Malloy de l'Université Quinnipiac. Nous nous posons des questions comme qui saura mieux gérer les armes nucléaires ou une crise internationale, l'immigration, qui s'occupera mieux de vos besoins familiaux et de votre protection. Autant de questions auxquelles les électeurs devront prêter attention quand les nouveaux sondages seront publiés après les débats, souligne l'expert Tim Malloy. Atteinte d'une pneumonie, la candidate démocrate Hillary Clinton a dû prendre quelques jours de repos et annuler diverses activités électorales, ce qui soulève des questions sur sa santé. J'espère qu'elle ne l'utilisera pas comme une excuse, mais je ne pense pas que cela l'affectera tant que ça, dit cette électrice de New York. N'importe qui peut attraper la pneumonie, il faut voir la vigueur avec laquelle elle a mené campagne et le peu de repos auquel elle a eu droit, fait remarquer cet autre habitant de New York. Les sondages d'opinion fournissent une indication à court terme de la direction d'une campagne électorale, rappelle l'expert Tim Malloy de l'Université Quinnipiac. La tendance à surveiller est de voir si Donald Trump peut rogner l'avantage qu'a Hillary Clinton actuellement chez les femmes, les Noirs et les Hispaniques, ou si l'ancienne secrétaire d'État va préserver son avance.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir choisi VOA Afrique à la console ce soir. Joselle Morissin, présentation Morgane Guériac et Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. 1 700 000, peut-être même plus. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.